Bruxelles. Washington, la voix de l'Amérique. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Bonsoir l'Afrique, bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver sur les ondes de la Voix de l'Amérique. Le Monde Aujourd'hui, édition du mercredi 8 avril 2014, en direct du studio 13 à Washington. Au micro, Morgane Guiriec et Chérubin Dorcil. Bonsoir Chérubin.
Bonsoir Morgane, nous sommes déjà le 9 avril.
Oh mon Dieu, ça passe vite. Au sommaire, ce soir, Anti-Balaka et Ex-Séléka s'affrontent dans le centre de la République centrafricaine. La Bangui, des généraux de l'ex-Séléka, appelle à la fin des hostilités.
Notre volonté irréversible de préserver la paix s'explique par notre acceptation du cantonnement de tous nos éléments à Bangui et en province.
Cri d'alarme de l'UNICEF concernant la situation des enfants en RCA. On écoutera un responsable de l'agence onusienne. Au Mali, Moussa Mara, critiqué dès sa nomination comme Premier ministre, cherche à rassurer la majorité présidentielle. Campagne ONU-FRDC contre les rebelles des ADF Nalou dans l'est de la RDC, un groupe qui comprendrait maintenant des extrémistes islamistes.
Au départ, ce sont des rebelles ougandais. Et maintenant, c'est un peu beaucoup de nationalités, c'est des terroristes et islamistes.
Nouvelle tragédie dans une école américaine. Un adolescent attaque 19 de ses camarades à coups de couteau en Pennsylvanie. Sans oublier nos pages sport et musique. Mais avant, le journal.
En République centrafricaine, 9 généraux de la Séléka ont appelé hier à la cessation des hostilités. De nouveaux affrontements ont été signalés entre Anti-Balaka et ex-Séléka à Dekoua, au centre du pays. Le bilan provisoire fait état d'au moins une trentaine de civils tués et plusieurs autres blessés. Le point avec Idriss Fall.
Les affrontements ont éclaté aux environs de 5 heures du matin et ont duré au moins 4 heures. La majorité des victimes étaient des civils qui ont été pris pour des anti-Balaka par un renfort des ex-Séléka venus de Kagabandoro. Des scènes de pillage ont suivi et une partie de la population a fui en brousse ou vers l'église Sainte-Anne. À Bangui, 9 généraux de l'ancienne coalition rebelle ont appelé à la cessation des hostilités et à la poursuite du désarmement. Mustapha Aboubakar, porte-parole des ex-Séléka.
Notre volonté irréversible de préserver la paix s'explique par notre acceptation du cantonnement de tous nos éléments à Bangui et en province. Nous en appelons aux forces internationales de poursuivre le travail déjà entamé et de faire accélérer le processus du DDR.
Par ailleurs, les États-Unis ont donné 37 véhicules et du matériel militaire à la MISCA. La remise a été faite à la base militaire Poco par Samantha Power, représentante américaine à l'ONU.
La situation reste terrible et cela pourrait être bien pire sans vos efforts pour protéger les civils, désarmer les milices et créer des zones sûres pour les familles.
Selon Samantha Power, 200 autres véhicules vont bientôt arriver à Bangui et le Conseil de sécurité de l'ONU doit voter demain le déploiement d'une force de maintien de la paix en Centrafrique.
Première sortie médiatique de Moussa Mara, le nouveau Premier ministre malien. C'était en marge de la cérémonie de passation de pouvoir avec Oumar Tatamli. Moussa Mara a insisté sur la loyauté envers le président de la République, le respect de la majorité présidentielle et la reconfiguration du programme de travail gouvernemental. Le compte-rendu de cette conférence de presse avec notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré.
Cette première sortie du Premier ministre malien a porté sur ses orientations. Moussa Mara, Premier ministre du Mali.
Améliorer les rapports entre les citoyens et l'État et faire en sorte que notre État puisse être grandement restauré. Il nous faut recoudre le tissu social qui a été particulièrement traumatisé par les troubles des années précédentes.
Moussa Mara veut que le nouveau ministre travaille dans la loyauté envers le président Ibrahim Boubacar Keïta tout en restant une équipe soudée.
Une équipe, c'est tous mûs dans une même direction. Une équipe, ce n'est pas des individualités qu'on compile. Nous allons animer le gouvernement avec l'état d'esprit d'intégrité absolue de ses membres.
Le Premier ministre souhaite la cohésion dans la majorité présidentielle.
Nous allons nous employer très rapidement à faire en sorte que la majorité présidentielle et l'exécutif soient main dans la main. Que cette majorité ait un contenu politique, si tant est que l'exécutif a l'ambition et la volonté de travailler avec elle. Et ce sera notre cas. Cette majorité, elle sera centrale dans notre action.
Dans la nuit, le nouveau Premier ministre va rencontrer le président de la République afin de discuter sur la composition du nouveau gouvernement. Et si tout va bien selon Moussa Mara, l'équipe gouvernementale sera présentée au grand public à la fin de cette semaine. Bamako, Kassim Traoré, La Voix de l'Amérique.
Nouvel afflux massif de migrants au large de l'Italie. Quelques 4000 migrants ont été secourus en 48 heures par l'Italie et plus de 15 000 depuis le début de l'année, affirme le ministre de l'Intérieur Angelino Alfano. Flavio Di Giacomo, porte-parole de l'OIM à Rome.
Plus de 3000 personnes entre hier et aujourd'hui vont arriver en Sicile. Ça fait partie des opérations de secours de l'opération Mare Nostrum, qui est l'opération de la marine militaire italienne, qui donne secours aux migrants qui se trouvent dans la Méditerranée et transfèrent les migrants en Sicile après le sauvetage. Le pays de départ, c'est la Libye. Il y a beaucoup d'Érythréens qui sont arrivés, des Syriens, des gens qui viennent de la Somalie et beaucoup d'Africains subsahariens. D'ailleurs, en 2013, il y a une majorité, un grand nombre de personnes qui échappent des situations de guerre ou des régimes autoritaires.
Flavio Di Giacomo, porte-parole de l'OIM, joint à Rome par Nicolas Pino. Le procès d'Oscar Pistorius se poursuit en Afrique du Sud. Accusé de meurtre, le coureur olympique amputé des deux jambes témoigne depuis 3 jours. Il soutient qu'il n'avait pas l'intention de tuer sa compagne, Reeva Steenkamp, le soir où il a tiré sur elle. Oscar Pistorius a fondu en larmes lorsque le procureur a affiché une image de la victime ensanglantée. Il prétend qu'il pensait s'est tiré sur un intrus lorsqu'il a ouvert le feu, mais pour les procureurs, il s'agissait d'un acte intentionnel. S'il est reconnu coupable, il risque une peine allant de 25 ans de prison à la perpétuité.
Washington, La Voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Pakistan, au moins 22 personnes ont été tuées et une centaine d'autres blessées dans l'explosion d'une bombe dans un marché à Islamabad. L'attaque intervient au lendemain d'un attentat et en fait 17 morts dans la province du Baloutchistan. Nathalie Barge.
Selon la police, la bombe dissimulée dans une caisse de fruits a été actionnée à distance alors que le marché était bondé. Le ministre de l'Information, Pervez Rachid, a affirmé que cette nouvelle vague de violence ne menaçait en rien les pourparlers de paix avec les talibans, alors que le cessez-le-feu expire dans 2 jours. Selon le ministre, l'attaque à Islamabad est survenue après une longue accalmie et il dit que pour la première fois, les talibans ont catégoriquement nié leur implication et fortement condamné l'attaque. Le 3 mars dernier, plus de 12 personnes, dont un juge, ont été tuées dans une attaque contre le tribunal d'Islamabad, revendiqué par Arar Uldin, un groupe dissident des talibans. Hier, une bombe a dévasté un train de passagers dans la province du Baloutchistan, tuant au moins 17 personnes et en blessant des dizaines. L'attaque a été revendiquée par les séparatistes baloutches.
Une série d'attentats à la voiture piégée a fait une vingtaine de morts aujourd'hui en Irak. Camille Grosdidier.
Ces bombes ont explosé dans des quartiers majoritairement chiites de la capitale irakienne et au sud de Bagdad. Une attaque est survenue dans le district de Qasimiyah, dans le nord de la capitale, mais l'attentat le plus meurtrier a eu lieu à Noumaniya, à environ 80 km de Bagdad, où 2 voitures piégées ont explosé. Des véhicules piégés ont également explosé à Sardes, Shamaya, Karada et Mamil. En fin de journée, une autre voiture piégée a explosé dans le secteur commercial de Jadiriyah à Bagdad. Il y a une recrudescence de la violence intercommunautaire en Irak depuis le début de 2014. Des élections législatives sont prévues en Irak à la fin avril. Il s'agira du tout premier scrutin de ce genre depuis le retrait des troupes américaines à la fin de 2011.
C'est le choc à Pittsburgh, en Pennsylvanie, ici aux États-Unis. Un étudiant armé d'un couteau a blessé 19 de ses camarades de classe et un adulte dans une école secondaire. C'est ce qu'annonce la police locale. Cela s'est passé aujourd'hui à Franklin Regional High School à Murrysville, une banlieue de Pittsburgh. Un porte-parole des services d'urgence a indiqué que 4 personnes semblent avoir été grièvement blessées, mais elles devraient survivre. 7 victimes sont dans un état grave. Selon la police, un suspect de 16 ans a été placé en détention. Tous les blessés sont âgés entre 14 et 17 ans.
L'Ukraine hausse le ton face à des velléités sécessionnistes dans trois régions de l'est du pays. Le ministre de l'Intérieur a averti que la crise avec les manifestants pro-russes doit être résolue dans les 48 heures. Kiev menace d'utiliser la force en cas d'échec des négociations. Jean-Roger Billon.
Le ministre Arsène Avakov a déclaré aujourd'hui qu'une solution politique est encore possible, mais il a promis aux manifestants qui souhaitent la confrontation qu'ils obtiendront une réponse adéquate des autorités ukrainiennes. Les manifestants se sont emparés de plusieurs bâtiments publics et ont exigé un référendum pour le rattachement à la Russie, le même scénario qui a eu lieu en Crimée. Le président russe Vladimir Poutine a mis en garde Kiev contre toute action irréparable, tout en exprimant l'espoir sur les possibles discussions sur l'Ukraine la semaine prochaine. De leur côté, les États-Unis ont exprimé leur scepticisme quant aux éventuels résultats de tels pourparlers prévus en principe le 17 avril à Vienne en Autriche. John Kerry, le chef de la diplomatie américaine, a déclaré hier devant une commission du Sénat que l'implication de Moscou en Ukraine est claire et sans équivoque. Il a ajouté que le président Barack Obama prépare des sanctions plus sévères contre la Russie si elle continue de déstabiliser l'Ukraine.
Les discussions sur le nucléaire iranien se poursuivent pour une seconde journée à Vienne, la capitale autrichienne. Elle regroupe des représentants de Téhéran et du groupe des Six. D'après la chef de la diplomatie européenne, Catherine Ashton, ces pourparlers vont passer à l'étape suivante le mois prochain avec un nouveau cycle de négociations. L'objectif est de parvenir à un accord d'ici la fin juillet, assurant le caractère pacifique du programme nucléaire iranien. Téhéran a d'ores et déjà accepté de limiter ses activités nucléaires en échange de l'allègement des sanctions. L'ayatollah Ali Khamenei a toutefois réaffirmé que l'Iran poursuivrait son programme.
Élections parlementaires en Indonésie. Les résultats non officiels donnent 20% au principal parti de l'opposition, le Parti démocratique indonésien de la lutte. Il est suivi du parti Golkar et du grand mouvement indonésien. Les résultats définitifs sont attendus le 9 mai. La présidentielle aura lieu deux mois plus tard, soit le 9 juillet.
De l'espoir, bien que très mince, pour l'équipe cherchant à localiser dans le sud de l'océan Indien l'épave du Boeing 777 de Malaysia Airlines disparu le 8 mars dernier. Un signal sous-marin qui pourrait provenir de la boîte noire de l'avion a été perçu hier. Selon le responsable de l'équipe, l'Australien Angus Houston, les transmissions ont été reçues à deux reprises, ce qui permettra, dit-il, de circonscrire l'espace des recherches. Houston espère que plus de signaux radio seront détectés afin de faciliter le déploiement de robots chercheurs au fond de l'océan.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur la Voix de l'Amérique. Au micro, Morgane Guiriec et Chérubin Dorsil. Les forces gouvernementales de la République démocratique du Congo, appuyées par l'ONU, poursuivent leur offensive contre les groupes armés dans le nord-est du pays, notamment les rebelles ougandais des ADF Nalu.
Hier, l'ONG Médecins sans frontières a appelé les forces régulières à assurer la sécurité des centaines de personnes enlevées par ces rebelles, dont quatre employés congolais de l'ONG, pris en otage en juillet 2013. Malgré la destruction de leur bastion, les ADF Nalu continuent de sévir. Pour un éclairage, Timothée Donangma a joint à Beni notre correspondant Nikez Kibelbeloka.
La première explication, c'est qu'ils sont là dans la durée. Ils ont plus de 20 ans et dans le massif de Rwenzori, ils ont tissé des relations avec la population congolaise, avec laquelle pour certaines, ils font le commerce. La deuxième raison est que la zone de combat, c'est une zone de haute forêt où il y a des cavernes, il y a des grottes. Ils connaissent mieux la région plutôt que les FRDC et ils peuvent, lors des bombardements, se cacher dans les grottes et aller au plus profond de la forêt.
C'est des rebelles ougandais, mais qui sont beaucoup plus actifs en RDC. Pourquoi?
Au départ, ce sont des rebelles ougandais et maintenant, c'est un peu beaucoup de nationalités. C'est des terroristes islamistes, on pèse bien le mot. Ils sont plus actifs parce que pendant plus de 20 ans, on les a laissés faire, ils ont, comme j'ai dit, ils sont habitués au climat, à la population, à la zone. C'est comme ça qu'ils sont plus actifs parce que les raisons pour lesquelles, fondamentalement, ils ont pris les maquis, c'est-à-dire chasser Mousséveni, n'existent plus aujourd'hui.
Vous dites qu'il s'agit de rebelles islamistes. D'où vient le lien avec les islamistes?
pratiquement leur chef Jamil Mokoul et a passé presque l'année 1966 au Soudan. Et là, il a rencontré, selon des sources indiennes, des fois, il a rencontré Bin Laden. Et ils ont cette origine aussi du Pakistan. Ils sont descendants d'une secte qu'on appelle Tablik, une secte du Pakistan.
Ces ADF Nalu ont enlevé des centaines de personnes, dont 4 agents locaux de Médecins Sans Frontières. Comment arrivent-ils à bouger? Comment arrivent-ils à se déplacer avec tant de monde?
Oui, c'est ça effectivement le mystère, parce que selon la société civile, c'est plus de 800 personnes qu'on a enlevé, dont les 4 agents de MSF à Kamango et puis 3 prêtres catholiques dans leur paroisse. Jusqu'aujourd'hui, et c'est ça le mystère de cette opération, jusqu'aujourd'hui, les FRDC appelés par la MONUSCO n'ont pas encore retiré les otages. Donc, on suppose que soit les ADF se déplacent avec les otages, soit on les a exécutés, comme la zone est tellement dense, la forêt est tellement dense, on n'est pas encore arrivé à y pénétrer. On ne peut pas connaître tous les secrets de la forêt. On espère que les drones peut-être pourraient donner, ouvrir certains pans de la vérité de cette forêt et de ce parc.
Nikeze Kibel-Beloka est notre correspondant à Beni, dans le nord-est de la RDC.
Jacques Aristide avec vous, Washington Forum. Ce jeudi, 20 ans après le génocide au Rwanda, les leçons ont-elles été apprises? Vos commentaires sur la page Facebook de Washington Forum. Rendez-vous donc ce jeudi à 19h10 sur la VOA.
Plus de 2 millions d'enfants directement affectés par le conflit en RCA, c'est le chiffre avancé par l'UNICEF. Les enfants sont les premières victimes du conflit, affirme cette organisation. Pire encore, ils sont visés par les violences. J'ai contacté Ted Cheban, directeur des urgences à l'UNICEF.
Quand il y a des violences qui ciblent différents villages, il est clair que les enfants aussi sont visés. Les enfants, premièrement, ont été témoins de violences avec des conséquences psychologiques. Les enfants ont été eux-mêmes victimes de violences. Nous avons plusieurs centaines de cas d'enfants séparés et non accompagnés qui, dû au déplacement, ne sont plus avec leur famille immédiate et nous essayons de les remettre en contact avec ces familles. Donc on est en train de parler d'à peu près 350 000 enfants déplacés. Nous avons des cas aussi d'enfants qui ont été recrutés par les différents groupes armés. Nous estimons qu'il y a à peu près 6 000 enfants avec différents groupes armés.
Donc l'UNICEF affirme que les enfants sont les premières victimes du conflit. Pourquoi?
Parce que ce sont des enfants qui, le premier, ressentent le manque de services de base, l'insécurité, le déplacement continu auquel ils sont sujets, auquel ils n'ont rien contribué. Ce n'est pas de leur faute. Ils subissent ça sans vraiment comprendre. C'est l'enfant qui ne va plus à l'école. L'enfant qui devrait être en train d'étudier n'a plus ses opportunités.
De quoi ces enfants ont-ils le plus besoin?
Premièrement, c'est un sens de sécurité, de normalité, d'être chez eux dans un cadre sûr avec leur famille. Ce sens qu'on n'a plus besoin de se déplacer, qu'on peut retourner vers ses champs, vers son bétail. Et ceci a un impact direct sur l'enfant parce qu'il sent cette sécurité, il sent que sa famille se retrouve stable. Deuxièmement, c'est vraiment se concentrer sur les besoins de survie de l'enfant. La vaccination contre la rougeole, la polio et les autres maladies infantiles et un travail sur la malaria. Nous sommes en saison pluvieuse actuellement. Troisièmement, le travail de fond sur la malnutrition, mais aussi le travail sur l'eau et l'assainissement. Et puis, pour l'enfant, ce qui est essentiel, c'est l'éducation. Nous voulons la relance de l'école en septembre parce que l'éducation donne à l'enfant ce sens de sécurité, ce sens de normalité. Et puis dernièrement, il est essentiel que ces enfants séparés soient réunifiés avec leur famille, que les enfants qui sont actuellement avec des groupes armés soient séparés et réintégrés au niveau familial. Beaucoup d'entre eux ayant vu des violences, qu'il y ait un support psychologique à ces enfants à travers des espaces où l'enfant peut jouer, peut apprendre, peut être avec d'autres enfants et avoir un certain sens d'enfance au milieu d'une période très difficile pour leur pays.
Ted Cheban, directeur des urgences à l'UNICEF.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur la Voix de l'Amérique. Après plus d'un an de libération, le Nord-Mali attend encore la mise en route des services de l'État. Des élections présidentielles et législatives ont été organisées à souhait, mais l'État là-bas n'est pas très visible aux yeux de certains, et même les ampoules ont cessé de s'allumer depuis plusieurs jours dans la cité des Askia. Face aux difficultés, les populations s'impatientent, nous dit notre correspondant Boubacar Touré.
Voilà plus d'un an que la ville de Gao est débarrassée des islamistes terroristes. Les populations ne parviennent toujours pas à avoir satisfaction avec les services de l'État qui fonctionnent très timidement ou ne fonctionnent pas du tout. Maman Boubou est un chef de famille à Sani.
Les représentants de l'État sont là, mais ne donnent pas les services souhaités aux citoyens. Parce que c'est vrai que chaque service, si tu le prends, tu trouves le directeur de service, mais c'est comme s'ils assumaient un service minimum. Ils ne sont pas bien logés parce qu'ils sont dans des maisons de particuliers qu'ils essayent d'adapter aux structures normales. Et ça, c'est difficile. Ils travaillent dans des conditions difficiles. Mais les citoyens, quand même, souvent, ils sont obligés de repartir à Mopti pour un certain nombre de services qu'ils peuvent avoir ici chez eux. Vraiment, l'administration n'est pas à point. Les conditions pour le retour de l'administration, c'est l'État qui doit en prendre vraiment conscience et donner les moyens nécessaires, et les moyens humains et les moyens financiers.
Si du côté des services de l'État, des problèmes existent quant à leur fonctionnement correct, du côté de l'électricité, c'est le pire. Sur les 6 groupes électrogènes de la centrale thermique, 2 seulement sont opérationnels, ce qui n'est pas sans conséquence pour les populations. Madame Sissé Essetamega, ménagère à Djoulabougou.
Notre grand problème maintenant, c'est le problème du courant. Vraiment, ça ne va pas. C'est grâce au courant qu'on fait nos petits commerces, on fait la glace pour souvenir aux besoins de nos enfants. Maintenant, il n'y a pas de courant. Il y a l'obscurité, il y a la chaleur. Et c'est dans l'obscurité même que l'ennemi peut nous offenser. Même nos enfants qui sont à l'école, ils ne peuvent pas étudier sans courant. L'obscurité, ils ne peuvent pas apprendre leurs leçons dans l'obscurité. On a les problèmes, vraiment, il faut nous venir en aide.
Amadou Koulibaly est soudeur à Aljana Bandia. Il affirme que c'est difficile aujourd'hui pour lui de subvenir aux besoins de sa famille.
Vraiment, c'est une grande difficulté parce qu'on n'arrive pas à travailler toute la journée, toute la nuit. Un chef de famille, il faut faire quelque chose chez toi comme tu veux. Mais là où on est maintenant, là, on est en train de débrouiller seulement. Donc il faut que le gouvernement sache que ça ne va pas.
Les directeurs de services que nous avons approchés n'ont pas voulu s'exprimer sur leurs conditions de travail. En attendant, les populations doivent garder leur mal en patience. Kaou Boubacar Touré pour La Voix de l'Amérique.
Le Burkina Faso est menacé par 2 épidémies, l'habituelle méningite et le retour de la rougeole sous une forme qui ne se limite pas qu'aux enfants. 816 cas de méningite ont été détectés avec 82 décès. Pour la rougeole, les chiffres tournent autour de 500 cas avec une particularité. Des personnes de plus de 15 ans ont été atteintes. Reportage de Zoumana Wonogo à Ouagadougou.
Vraiment, ça fait peur, mais la question qu'on doit se poser, mais qu'est-ce que le gouvernement fait? Qu'est-ce que le ministère a entrepris comme, on peut dire, action? Parce qu'on sait quand est-ce qu'on parle de méningite, quand est-ce qu'on parle de rougeole au Burkina Faso. Donc il ne faut pas laisser, quand ça commence à faire des victimes, pour commencer maintenant à crier haut et fort, pour que d'autres viennent de l'extérieur pour nous aider. Il faut commencer, il faut prévenir au Faso. C'est ce qu'il faut.
En réponse, voici les actions menées par le ministère de la Santé, dites par le ministre lui-même, Léné Sebgo.
C'est un plan avec un coût total d'environ 2,441 millions de francs CFA qui vise les axes de contrôle de la maladie que sont le renforcement de la surveillance épidémiologique, l'amélioration des capacités des laboratoires, la prise en charge correcte et gratuite des cas, les vaccinations réactives en cas d'épidémie, la communication et la coordination. Et puis, il faut rappeler aussi une action importante, c'est l'introduction du vaccin contre le méningocoque dans le PEV de routine au dernier trimestre de l'année 2013.
Le professeur bactériovirologue Lassina Sangaré ne cache pas sa joie concernant les actions anti-méningite. Il se veut rassurant. On l'écoute.
Nous avons la joie de savoir qu'un vaccin contre le pneumocoque est introduit depuis peu. Et cela va nous permettre d'avoir, pas une mainmise, mais en tout cas un contrôle assez satisfaisant des méningites à pneumocoque. On a des vaccins à l'heure actuelle qui existent et qui nous permettent de juguler les situations sans trop de soucis graves parce que ces vaccins sont efficaces lorsqu'ils sont administrés en réaction ou en proaction. Eh bien, on a des résultats qui sont très très satisfaisants et qui permettent de se réjouir de la suite qu'a donnée à ces maladies.
L'un des facteurs favorisant la propagation de la méningite serait l'harmattan avec son ventre chaud et sec. C'est pourquoi les Burkinabés ont les yeux rivés vers le ciel, l'implorant pour une pluie bienfaisante. Zoumana Ouendogo, Ouagadougou, La Voix de l'Amérique.
L'actualité sportive, c'est avec Nicolas Pineau ce soir. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Chérubin.
Alors, à suivre la suite des quarts de finale retour de la Ligue des Champions en Europe.
Et oui, qui accompagnera Chelsea qui a éliminé le Paris Saint-Germain et le Real de Madrid qui a éliminé le Borussia Dortmund. Alors, il y aura forcément Chérubin, un club espagnol puisque l'Atlético Madrid accueille le FC Barcelone. Les deux équipes s'étaient séparées sur le score de 1 partout à l'aller. Eh bien, la mi-temps, c'est l'Atlético qui mène 1-0 sur un but de Koke dès la 6e minute. Quant aux champions en titre, les Munichois du Bayern, ils reçoivent Manchester United. Et pour le moment, 0-0 à la mi-temps entre les deux équipes.
Et l'Atlético ne doit pas fêter trop vite parce que l'autre équipe a quelqu'un qui s'appelle Lionel Messi.
Oui, tout à fait.
Cyclisme.
11 équipes de 9 pays prendront part à la 23e édition du Tour international du Togo qui se déroulera du 14 au 20 avril prochain.
Et parlons basket, NBA, championnat de basket nord-américain.
Eh oui, coup de chapeau à dire que Nowitzki, qui a intégré le top 10 des meilleurs marqueurs de l'histoire de la NBA grâce à ses 21 points hier contre Utah. Ces 21 points qui ont permis la victoire de Dallas, 95-83. Le joueur allemand qui rentre dans le top 10, exceptionnel. Et puis la défaite des Lakers au Staples Center de Los Angeles, 130-145 face à Houston. Détroit qui domine Atlanta, 102-95. Les Spurs de San Antonio qui chutent contre Minnesota 91-110. Enfin, les Nets de Brooklyn qui s'imposent sur le fil devant l'équipe de LeBron James Miami 88-87.
Merci Nicolas.
Allez, place à la musique avec Roger Muntou et ce soir on écoute Kanye West.
Exact, Morgan. Kanye West qui a été condamné récemment pour avoir frappé Daniel Ramos, le rappeur américain, a escopé de 2 ans de liberté surveillée, 250 heures de travaux d'intérêt général et de 24 séances pour apprendre à gérer sa colère. Mais on l'écoute ce soir dans Chain Heavy.
We got the black lead in the house tonight. Rosewood, I feel like I'm at the NAACP or something right now. Essence Festival. Q-Tip on the beat too. My chain heavy, yeah, yeah, my chain heavy. My chain heavy, my chain too heavy. My chain heavy, yeah, yeah, my chain heavy. My chain heavy, my chain too heavy. They try to tell me my chain broke the levee. Maybe cause it's flooded. Why you walk around with a baby cross his cousin? My teeth already white, y'all gonna make me floss for nothing. My teeth real diamonds, what's the cause of the frontin'? Why y'all got all caps on? Don Cheadle time, get extra black on them.
Alors, les faits s'étaient déroulés le soir du 19 juillet 2013 dans l'aéroport de la métropole californienne, pendant que le photographe Daniel Ramos avait alors tenté de prendre la star en photo.
Exactement, Morgan, juste une photo. La scène avait été entièrement filmée par des caméras de surveillance. Kanye West s'était alors jeté sur le paparazzi, lui avait asséné plusieurs coups et avait tenté de lui arracher son appareil photo. Alors que le photographe était transporté à l'hôpital, Kanye West, lui, avait embarqué à bord de son avion. Il faut vraiment faire attention, il y a toujours des caméras cachées, n'est-ce pas, Morgan?
Ah bah oui, enfin, je donne pas raison, mais quand même, les paparazzi,
c'est ce que j'allais te demander aussi. Ils vont tu crois qu'ils exagèrent un peu?
Ah bah bien sûr, ils vont trop loin, c'est certain.
Ouais. Et Kanye West, lui, il n'est pas prêt pour ça.
Lui aussi a été trop loin.
Mais écoutons ce morceau, Chain Heavy.
How many caches will we see in one lifetime? That's why it's Miles Davis, Kobe, it's Mike time. I keep that goat book on the ottoman and wrote hooks about slaves that were slaughtered in the 1800s. Y'all forget that I got called on again Twitter so many times, yo, I live that. Now I'm just trying to find where to raise my kids at, cause they don't want to get next to where they crib at. Hey, real time, looking for a nice park. 12 noon, she said my family gonna make it too dark. This is the flow that solar eclipses, so hopefully one day that real soul will eclipse the soul they got us listening to in its existence. Don't give up now, just a little more persistence. I am the day Ice Cube met Michael Jackson. Keep him away, huh? Something might happen. This
is the making of a masterpiece. So we broke out the chains and told a masterpiece. My chain heavy, yeah, yeah, my chain heavy. My chain heavy, my chain too heavy.
Voilà.
Et pas encore, attendez monsieur le pilote, c'est notre tour Morgane.
Le RM Show c'est pour tout à l'heure, c'est dans quelques minutes avec Roger Muntou. Mais avant, on va se dire au revoir puisque Le Monde aujourd'hui s'achève. Merci de nous avoir suivis. C'était Michel Joseph à la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. C'était Morgane Guiriec.
Et Chérubin, Gabi Dorsine.
À demain.